Lynn Drapeau, vous êtes linguiste, professeure associée au département de linguistique de l'Université du Québec à Montréal et vous êtes l'auteur de « La grammaire de la langue innue ». Il est intéressant d'en parler parce que c'est la première grammaire moderne pour cette langue autochtone. D'abord, situons les Innus, qu'on appelait autrefois les Montagnais. Ils vivent principalement au Québec, n'est-ce pas?
Ils sont au Québec et au Labrador. Et le Labrador fait partie de la province de Terre-Neuve au Canada, mais la plupart des villages, effectivement, sont au Québec. Il y a un village au Labrador.
Il y a combien d'Innus aujourd'hui?
Bon, c'est difficile à dénombrer parce que la démographie nous est beaucoup plus importante que la nôtre, hein? C'est-à-dire qu'ils ont une croissance démographique plus importante que la nôtre. Donc, je pense au dernier décompte autour de 13 000 ou 15 000 Innus. Ça dépend des recensements. Là, on les a tous les 6 ans. Donc, au dernier chiffre, ça doit être autour de 13 000, 15 000, oui.
Et de ce nombre, combien parlent encore aujourd'hui l'Innu?
Moi, je dirais à peu près une dizaine de mille personnes, oui, qui parlent encore l'Innu, oui.
Donc, adultes et enfants?
Adultes et enfants, oui, c'est ça. La situation est variable selon les communautés. Certaines communautés utilisent l'Innu dans la vie de tous les jours. Donc, ça signifie que les enfants acquièrent la langue Innu comme langue première. Je dirais que c'est la majorité des communautés qui sont dans cette situation-là. Par contre, dans au moins une communauté, la langue n'est plus parlée et ça fait déjà plusieurs générations. Dans une autre communauté, et là je réfère à Mastéouillage, la langue est vraiment sur le point de se perdre. C'est-à-dire qu'il y a encore des locuteurs qui l'ont comme langue première, mais en général, les enfants n'apprennent plus la langue à la maison. Donc la langue n'est vraiment presque plus utilisée comme langue d'usage au sein de la famille.
Donc pour ceux qui la parlent, ils ne l'apprennent pas sur les bancs d'école par la suite.
Oui, ça c'est une autre caractéristique donc de cette langue-là et souvent de toutes les langues autochtones au Canada et, de toutes les langues à tradition orale, c'est-à-dire que le passage d'une langue à tradition orale à une langue dans laquelle on a une littératie établie est un passage qui est long et qui se fait parfois très difficilement, d'autant plus que la plupart de ces communautés-là vivent dans des sociétés où ils sont vraiment très, très minoritaires. Donc, la scolarisation se fait la plupart du temps dans la langue de la majorité, soit le français, l'anglais ou dépendamment des pays.
Mais vous l'avez dit, c'est une langue orale, donc des ouvrages en langue innue, il doit en exister très, très peu.
Ben, il y a un grand effort qui a été fait dans les 40-50 dernières années pour produire du matériel écrit dans la langue. Bien sûr, on a des dictionnaires, on a des textes qui sont publiés. Il y a un grand effort qui a été fait, mais il reste que à l'échelle de langues comme le français ou l'anglais, c'est vraiment très peu. Il n'y a pas de manuel scolaire, par exemple, en langue innu.
Là, je parlais de cette grammaire, la première grammaire moderne. Pourquoi dit-on qu'elle est moderne?
Ben, elle est moderne parce que j'ai insisté là-dessus parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce qu'il y avait déjà des ouvrages de grammaire sur les langues autochtones parlées au Québec ou au Canada? Bien sûr qu'il y en avait, il y a quand même une tradition grammaticale, hein, parce que quand les premiers missionnaires sont arrivés ici au 17e siècle, tout de suite, ils ont commencé à consigner les langues autochtones la langue des autochtones qu'ils croisaient, qu'ils fréquentaient. Donc, ils ont compilé des dictionnaires, ils ont fait parfois même des mini-grammaires, mais bien sûr, c'était avec les outils qu'ils possédaient à l'époque, c'est-à-dire pour l'essentiel, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se référaient aux catégories du latin ou du français.
Ah oui.
Donc, la linguistique a beaucoup évolué depuis cette époque-là. Et même au début du 20e siècle, on regarde certains ouvrages, certaines descriptions missionnaires du début du 20e siècle et on s'adapte par rapport. C'est normal hein, que ce soit pas tout à fait au point par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui comme linguistique. Au cours des 40 dernières années, les linguistes à travers le monde ont fait un effort gigantesque de description de ce qu'on pourrait appeler les petites langues, hein, les langues plus exotiques, les langues de moindre diffusion.
Oui.
Et ce faisant, ont construit tout un outillage conceptuel pour et vraiment un coffre à outils qui nous permet de d'écrire maintenant des structures qui sont beaucoup plus exotiques sans avoir à faire référence au français ou au latin.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui caractérise la langue inoue?
Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui caractérisent cette langue-là. C'est une langue qu'on dit être polysynthétique.
Alors, ça veut dire?
Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que dans ce type de langue-là, la morphologie est beaucoup plus complexe que ce à quoi on est habitué dans les langues indo-européennes, par exemple. Si bien que un verbe dans cette langue-là équivaut à toute une phrase. Dans une langue comme le français ou l'anglais.
Si vous nous donnez un exemple, ça ressemblerait à quoi?
Je peux vous donner un exemple. C'est, par exemple, si je veux dire que la machine s'est arrêtée de fonctionner, elle s'est arrêtée de fonctionner en parlant d'une machine, là. Eh bien, en inno, s'arrêter de fonctionner, c'est un seul verbe.
Ah, d'accord, oui.
Alors, par exemple, on peut parler, autrement, on peut dire, en parlant d'un morceau de bois là qui décrit des cercles dans le courant, en descendant le courant, ben décrire des cercles en descendant le courant, c'est un seul verbe.
Ah, OK.
C'est un seul verbe. D'accord. Qui est formé, bien entendu, de plus petites parties.
Oui.
Qui, chacune, apportant, contribuant un élément du sens, mais le sens du tout, donc, est plus complexe, parce qu'il est dérivé de chacune des parties qui sont concaténées les unes après les autres pour former le verbe. Alors, en plus de ça, dans ces langues-là, on n'est pas obligé de mettre des pronoms à l'extérieur du verbe. C'est-à-dire que le sujet, l'objet sont implicites dans le verbe.
Okay.
On est capable de retrouver le référent dans le verbe. Donc, les verbes s'accordent avec leur sujet et leur objet, automatiquement.
Est-ce que l'inou s'apparente à d'autres langues autochtones, comme par exemple l'inuit? L'inuktitut, c'est-à-dire, l'inuit.
Oui, il y a plusieurs familles de langues différentes parlées en Amérique du Nord. Bien sûr, il y en a des dizaines. L'inou, comme tel, fait partie de ce qu'on appelle la grande famille linguistique algonquienne. La famille linguistique algonquienne comprend des dizaines de langues, certaines qui sont, plusieurs sont éteintes aujourd'hui, là,
oui.
Mais quand même au Canada, on en a encore plusieurs, dont le cri, le Ojibwe, et des langues comme le Mi'kmaq, le Malécite, etc. Donc, c'est une famille linguistique qui est très diversifiée, avec un grand nombre de locuteurs. Et l'inou, plus particulièrement, fait partie de ce qu'on appelle le continuum dialectal cri, montagnais et naskapi. Montagnais, en fait, aujourd'hui, on dit inou.
Oui.
Donc,
oui.
Cri, inou, naskapi. C'est-à-dire, c'est un ensemble de dialectes qui couvre presque tout le territoire canadien, du Labrador jusqu'aux montagnes rocheuses.
Ah, ça inclut beaucoup de monde?
Oui, ça inclut un grand territoire et ça couvre donc presque l'ensemble du Canada. Hein, c'est ce que je disais. Là, ça passe, on part de Terre-Neuve et puis on couvre tout le Québec, le nord de l'Ontario, le nord du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.
Donc les provinces.
Donc oui, c'est un grand nombre de locuteurs. C'est les cris représentent au moins, je ne sais pas le chiffre exact à l'heure actuelle, mais au moins 100 000 personnes au Canada. Comme certains sont catholiques, d'autres sont protestants, certains sont anglophones, d'autres sont francophones, il en est résulté l'appartenance à des sous-groupes, mais au fond, c'est à peu près la même langue. Hein. Ils ne se reconnaissent pas nécessairement comme parlant la même langue parce qu'ils ont il y a tellement de différences dirais phonétique de surface hein, dans la prononciation que ils peuvent avoir du mal à se comprendre mutuellement. Donc, il n'y a pas nécessairement d'intelligibilité mutuelle, mais au fond, l'organisation linguistique est la même. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis que les différences entre les dialectes sont plutôt des différences de surface et les caractéristiques structurelles fondamentales de la langue sont les mêmes d'un bout à l'autre de ce territoire-là.
Alors, à ce
pour
moment-là...
Pour ce bloc dialectal-là, bien sûr.
À ce moment-là, est-ce que votre grammaire peut servir à des atikamekw ou à des cris?
On m'a demandé de la traduire en anglais. Je suis pas certaine que ça va demander des adaptations, bien sûr, de le faire. Les Atikameks, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des différences de surface qui sont importantes pour les locuteurs, hein, selon qu'un locuteur prononce avec un R ou un L ou qu'il prononce tel ou tel son, pour eux, ça fait une grande différence. Mm-hmm. Je pense que pour passer par-dessus ces différences de surface-là, il faut avoir faut être détaché un peu du contexte et regarder les choses un peu de manière un peu impersonnelle. Pour eux, je pense que pour tout le monde, ils vont s'y retrouver. Mais certainement, les Atikameks ne diraient pas qu'une grammaire de l'innu, c'est une grammaire de leur langue. Je pense pas qu'ils le perçoivent comme ça.
Oui. Est-ce que la langue innu est une langue en voie d'extinction?
Je porterais pas un jugement aussi radical que de dire que c'est une langue en voie d'extinction, parce qu'il y a plusieurs degrés. Hein? Mais certainement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une langue menacée. Toutes les langues autochtones sont des langues menacées à travers le monde à l'heure actuelle, à mon avis. Les linguistes ont constaté dans les 40 dernières années une accélération de la déperdition des petites langues minoritaires. C'est pas vrai uniquement des langues à tradition orale, d'ailleurs, parce que si on regarde en Europe, prenez seulement un territoire qu'on connaît bien, comme la France, le breton en France est très fortement menacé. Mm-hmm. Pourtant, c'est une langue qui avait plusieurs centaines de milliers de locuteurs, jadis.
Oui.
Mais aujourd'hui, on apprend de moins en moins le breton à la maison. Et il y a même des projets de revitalisation qui visent à en faire la langue d'enseignement dans les écoles, ou auquel cas les jeunes, les enfants l'apprennent comme une langue seconde.
Oui.
Et puis c'est vrai aussi pour le catalan en France, l'occitan, toutes les langues minoritaires entre guillemets sont menacées de disparition sur le territoire français. Pourtant, plusieurs d'entre elles avaient une grande tradition écrite. Hein? Donc, c'est pas le propre des langues à tradition orale que d'être menacées. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que plus une langue est parlée par un petit nombre de locuteurs au départ, quelquefois, c'est des poignées de locuteurs, quelques centaines, quelques milliers seulement. Dans le contexte actuel, avec la scolarisation de masse en langue majoritaire, donc scolarisation obligatoire, je veux dire, en langue majoritaire, avec les moyens de communication modernes, il est certain que toutes ces langues-là sont menacées parce que les membres de ces communautés-là deviennent tous bilingues, c'est-à-dire qu'ils apprennent tous la langue majoritaire. Autrefois, ce n'était pas nécessairement le cas. Moi, quand j'ai commencé à travailler chez les Innu, il existait encore beaucoup de monolingues en Innu, donc qui ne parlaient pas le français.
Ils sont de moins en moins nombreux?
Mais aujourd'hui, ça n'existe plus parce que avec l'avènement de la scolarisation obligatoire depuis les années 50, tout le monde est scolarisé, donc tout le monde est scolarisé dans le cas des Innu, en français. Et donc, ils connaissent tous le français également. Ils sont bilingues, ils connaissent l'Innu et le français. Quand l'ensemble d'une population dans une communauté est bilingue, il y a de très fortes chances qu'ils passent carrément à la langue majoritaire. Donc, ce qui veut dire qu'ils cessent d'utiliser la langue avec leurs enfants. Donc, les enfants ne l'apprennent plus comme langue maternelle.
Oui.
Et du coup, quelqu'un qui ne connaît pas une langue comme langue maternelle, il peut pas bien l'utiliser, il peut pas la transmettre à ses enfants. Et c'est comme ça que ça enclenche un processus assez pernicieux, hein, de perte de la langue dans la communauté.
Eh bien, espérons que votre grammaire de la langue innu amènera un regain d'intérêt pour les gens de la communauté innu et pour tous ceux qui aiment les langues autochtones particulièrement. Lynn Drapeau, je rappelle, vous êtes linguiste. Merci beaucoup.
Je vous en prie, ça m'a fait plaisir.